franceinter.fr.
L'impact des perturbateurs endocriniens sur le développement des embryons, c'est aujourd'hui à la une de la science. Une étude publiée dans la revue Scientific Report et menée sur des embryons de grenouilles confirme l'importance de ce que les chercheurs appellent les effets cocktails. Le mélange des produits chimiques auxquels nous sommes exposés quotidiennement révèle justement des effets délétères sur le développement et la locomotion des têtards. Barbara Domenech, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes directrice de recherche au laboratoire Évolution et Régulation Endocrinienne et donc vous publiez ces travaux avec vos collègues du CNRS et du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors il s'agit bien d'une étude menée sur l'animal, sur la grenouille Xénope précisément. Quelle était la composition de ce cocktail que vous avez proposé justement pendant 3 jours à ces embryons de grenouille?
On a utilisé un cocktail de substances qui sont ubiquitaires, des polluants chimiques qui sont trouvés quasiment chez tout le monde. Et la particularité, c'est qu'on les a utilisés à des concentrations qui sont bien documentées pour être présentes dans le liquide amniotique humain. Donc c'est vraiment un cocktail auquel sont exposés quasiment tous les fœtus humains aujourd'hui.
Et vous notez donc des effets en étudiant les têtards qui ont grandi après l'exposition. Quels sont les effets les plus importants, les plus inquiétants?
Les effets les plus inquiétants, c'est qu'on a vu que ce cocktail interfère action des hormones thyroïdiennes. Alors les hormones thyroïdiennes sont absolument essentielles pour le développement du cerveau.
Du cerveau.
Il y a chez une grenouille que chez un être humain. C'est exactement le même hormone chez une grenouille que chez un être humain. Et donc on a vu des effets sur les hormones thyroïdiennes, on a vu des effets sur le cerveau, sur le nombre de cellules, sur le nombre de neurones, sur le volume même de ces neurones, et on a aussi vu des effets sur le comportement des têtards, sur la mobilité.
Vous venez de dire qu'on pouvait transposer ces résultats entre la grenouille et l'homme. Pourquoi précisément?
Parce que c'est exactement le même hormone, l'hormone thyroïdienne, qui est nécessaire pour le développement du cerveau d'un têtard, qui est aussi bien nécessaire pour le développement de nos cerveaux. Vous savez peut-être que sans une bonne dose de hormone thyroïdienne au bon moment, l'être humain devient un crétin. Plus récemment, on a pu démontrer que c'est les taux maternels chez la mère des hormones thyroïdiennes pendant les premiers 3 mois de grossesse qui vont être très déterminants pour le QI de l'enfant et voire même la structure de son cerveau 6, 7, 8 ans plus tard.
Barbara Domenech, donc là, vous avez recréé les conditions d'un liquide amniotique humain chez la grenouille. C'était ça aussi la méthode?
Mais disons qu'on a pris effectivement le cocktail de ces 15 substances qui sont trouvées chez tout le monde et on les a mélangées et on les a mis donc dans l'eau dans laquelle les têtards nagent. L'avantage évidemment d'un têtard, c'est qu'il se développe dans l'eau, tandis que l'embryon de souris, l'embryon humain, évidemment, il est dans l'utérus de sa mère. Mais on a utilisé exactement les mêmes concentrations qu'on va trouver dans le utérus, dans le liquide amniotique.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément ce qui composait ce mélange? Où est-ce qu'on trouve ces molécules dans notre quotidien? Quelques exemples?
Eh bien, certaines sont ce qu'on appelle des pesticides qui sont là, qui ont été réglementés, tels le DDT ou le métabolite du DDT. Les PCB ont aussi été réglementés dans les années 70, mais ils sont toujours présents chez nous. Mais il y en a aussi des molécules telles les phtalates, les plastifiants, le sacré bisphénol A, le BPA, surtout des molécules fluorées qui sont utilisées pour imperméabiliser des vêtements et des poils qui ne collent pas, les poils Teflon, etc. Donc, il y a énormément de variétés de molécules, mais ils sont extrêmement présents dans notre quotidien, d'où le fait qu'on va les trouver dans le liquide amniotique de toutes les femmes chez qui on a regardé.
Une fois qu'on a un résultat pour un cocktail comme vous l'avez obtenu, comment on fait pour aller plus loin, pour essayer de cibler les molécules les plus importantes dans les faits observés?
À vrai dire, on a testé chacune de ces molécules individuellement. Avant de faire le cocktail, on a vu que certaines avaient... disons qu'aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde l'épidémiologie et on commence avec l'épidémiologie et on essaie d'identifier les acteurs qui sont les plus délétères. Et c'est un genre de travail de longue haleine qu'on fait entre des épidémiologistes et des gens qui ont des modèles expérimentaux. Mais comme vous pouvez savoir, c'est quand même assez urgent d'arriver à des conclusions solides sur ces problèmes, parce que l'Europe est en train en ce moment de légiférer sur les définitions et les critères pour définir les perturbateurs endocriniens.
Ils ont bien du mal. Ouais, ils ont bien du mal d'ailleurs, Barbara Domenech, à donner une définition.
Oui, d'ailleurs, je suis à Bruxelles et je suis devant le Parlement en ce moment parce que je fais des réunions avec des parlementaires en ce moment pour les éclairer sur le problème.
C'est la première fois qu'on peut étudier vraiment l'effet cocktail de cette façon-là, en tous les cas?
De manière expérimentale sur un animal, parce que même l'embryon de grenouille, c'est quand même une petite animal. C'est vraiment la première fois qu'on prend ces, de manière expérimentale sur ce test-là, et qu'on révèle des choses aussi frappantes sur le développement du cerveau. Oui, effectivement, c'est la première fois.
On va profiter que vous soyez à Bruxelles pour vous demander des nouvelles de la Commission. Est-ce que la définition sur les perturbateurs endocriniens devrait venir bientôt?
Mais disons qu'il paraît-il qu'il n'y a plus de problème avec la définition. Et tout se passe maintenant avec les discussions juridiques de comment on va vraiment faire la réglementation. Et tant qu'on n'a pas une meilleure vision de ça, et là, c'est vraiment un moment où il va falloir plus de discussions entre les scientifiques et ceux qui font la réglementation et les juristes pour voir les implications. C'est un moment tout à fait critique. Et je pense que les discussions qui vont avoir lieu dans le mois qui vient vont être particulièrement importantes.
Est-ce que vous pensez qu'une étude scientifique comme celle que vous révélez avec vos confrères justement cette semaine pourrait faire avancer, en tout cas accélérer un petit peu les choses? Parce qu'on voit quand même que si on extrapole à l'humain, avec cette perte de neurones en tout cas que vous observez chez les grenouilles, on a aussi un impact direct sur le QI des enfants possible.
Ben, tout à fait, une des premières choses qu'on dit dans l'article. Les données de l'épidémiologie sont claires, la perturbation endocrinienne de certaines de ces molécules a déjà été démontrée. Par exemple, pour les PCB, on sait depuis 30 ans que les PCB, la mère qui est exposée à un niveau élevé de PCB va avoir un enfant avec le risque d'un QI beaucoup plus bas, 5-6 points de QI de plus bas. On sait ça pour plusieurs de ces molécules individuellement, mais on ne savait pas pour les cocktails. Maintenant, on a aussi des données sur le baisse de QI dans les populations. Il y en a une étude qui a été publiée pour la France il y a quelques années qui montrait une perte de 3,8 points de QI depuis une dizaine d'années. Donc, il est quand même urgent, si l'Europe veut garder sa capacité intellectuelle et sa capacité d'innovation, qu'il y ait une réglementation qui se met en place. Et je peux aller plus loin, je peux dire que peut-être un jour, justement, il va avoir... l'opinion publique va dire, mais attendez, pourquoi vous ne nous avez pas protégés avant?
Donc urgence, et d'où la nécessité de se mobiliser comme vous le faites donc en ce moment directement auprès du Parlement européen. Barbara Domenech, merci pour vos explications. Donc étude importante, en tout cas, qui fait avancer la problématique des perturbateurs endocriniens et qui a été publiée donc, cette semaine, absolument, dans la revue Scientific Report. Merci beaucoup à vous, Barbara Domenech. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une découverte qui concerne les écosystèmes microbiens. Les chercheurs viennent de comprendre que les populations de bactéries les moins nombreuses sont également les plus importantes pour la santé de cet écosystème. Des scientifiques américains ont testé la résilience de plusieurs microbiotes aquatiques face à des changements dans leur environnement ou dans leurs conditions de vie. Ils concluent que ce sont souvent les espèces bactériennes les plus rares parmi l'écosystème qui permettent la survie en servant de réservoir de diversité génétique pour l'ensemble du microbiote. Testé seulement dans l'eau, ce type de recherche pourrait aussi s'appliquer sur des microbiotes humains, intestinaux ou même cutanés. Ce regard coupable que prend votre chien lorsqu'il a fait une bêtise ne sera en fait que de la peur. Cette affirmation qui peut paraître évidente est aussi la preuve que nous projetons des réactions humaines sans cesse chez nos animaux de compagnie en étudiant simplement les signes physiques exprimés par des chiens pris en flagrant délit de faute et en les comparant directement avec ceux de chiens apeurés ou au comportement d'animaux sauvages de la même famille. Les chercheurs affirment que ce regard coupable n'existe pas. Nous voyons de la culpabilité car nous attendons à ce que notre chien se sente coupable. Mais ça n'est pas le cas, conclut justement l'auteur de cette publication. Et puis pour terminer, cette drôle d'histoire de foie baladeur qui est à lire sur le blog de Marc Gozlan. Le médecin y raconte l'histoire d'une patiente turque qui se plaint d'un mal de ventre depuis plusieurs années. Des examens approfondis font apparaître qu'un foie minuscule et supplémentaire lui a poussé sur le cœur. Un cas rarissime mais pas unique de foie ectopique. Apparemment et selon le blogueur, des foies ectopiques supplémentaires ont déjà été trouvées dans les poumons, l'estomac ou même les reins. Une revue amusante en tout cas des cas les plus rares et à lire donc sur le blog Réalité Biomédicale de Marc Gozlan.